Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Eh bien, bonjour aux auditeurs de Radio Galère. Vous êtes bien toujours en 2013 et vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, et déjà le deuxième numéro. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la gentrification, une nouvelle maladie qui frappe les habitants des villes. Et pour cette émission, je serai avec Mathieu et avec notre invité Christian Deleuze, qui représente l'association Un Centre-Ville pour Tous. Alors, bienvenue à vous deux. Dis-moi Mathieu, c'est quoi cette histoire de gentrification ?
Alors oui, bonjour Hervé, je vais tâcher de t'en donner une petite définition. Alors la gentrification est un phénomène d'embourgeoisement urbain des quartiers populaires. Le mot est un néologisme issu d'un mot anglais signifiant « petite noblesse ». Il est utilisé par les sociologues s'intéressant aux questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire afin de rendre compte du processus par lequel des arrivants plus aisés s'approprient un espace initialement occupé par des habitants et usagers moins favorisés, transformant ainsi le profil économique et social du quartier au profit exclusif d'une couche sociale supérieure.
Je comprends trop bien ce que tu veux dire, mais je ne connaissais pas le mot. Oui, je vois le processus. L'embourgeoisement dont tu parles se traduit d'abord par la réhabilitation des bâtiments et par l'accroissement des valeurs immobilières, comme dans bien des lieux marseillais, exemple rue de la République. Cet embourgeoisement se traduit aussi par une pression plus forte des nouveaux habitants sur les pouvoirs publics pour qu'ils améliorent le quartier. Par exemple, moins de bruit, plus de protection, avec des destructions massives de logements populaires au profit d'un habitat plus haut de gamme.
C'est bien ça. Les plus pauvres qui habitaient le quartier avant son embourgeoisement ne peuvent plus suivre en matière de loyer et doivent chercher ailleurs, par exemple dans des quartiers moins chers qui offrent moins d'avantages, comme des zones excentrées ou mal desservies par les réseaux, et avec plus d'inconvénients, tels que le bruit ou la pollution. En gros, la gentrification est une forme de ségrégation avec l'expulsion des plus faibles économiquement vers des zones plus éloignées.
Oui, et puis la gentrification comprend aussi une dimension commerciale. Au sein de ces quartiers gentrifiés, certains types de commerces sont remis au goût du jour, qui offrent des produits chers, inaccessibles au plus grand nombre. Je citais tout à l'heure l'exemple de la rue de la République, mais il en a été de même pour les commerces comme pour les logements.
Exactement. Marseille est une des dernières villes européennes avec Lisbonne et Naples à conserver en son centre une réelle mixité sociale et plus précisément une population pauvre. Cette mixité n'est ni désirée ni acceptée par ceux qui gèrent la cité et de nombreux moyens ont été mis en œuvre ces dernières décennies pour y mettre fin, même si la ville résiste. Le moyen principal utilisé par la ville et son outil Marseille Aménagement pour réhabiliter ses quartiers a été de donner des avantages fiscaux aux acquéreurs, dont l'effet est de chasser des locataires modestes et pauvres, et de transférer la petite propriété des immeubles du centre-ville aux couches les plus aisées du pays, en le faisant payer par le contribuable. Il a fallu toute la ténacité des habitants et la mobilisation d'associations comme Un Centre-Ville pour Tous pour faire condamner ces pratiques et celles de la municipalité afin que les aspects les plus scandaleux du viol des droits des habitants cessent en partie.
Oui, et puis l'élite qui gouverne Marseille montre une obstination et une constance rare dans sa volonté de déplacer les populations modestes et pauvres du centre-ville, que ce soit sous la forme des expulsions en réhabilitation via Marseille Aménagement. Mais ce qui se joue depuis 2000 est une phase nouvelle et plus frontale. Au travers de l'opération Euro-Méditerranée et des forts investissements de l'État et des collectivités, c'est la ville elle-même qui est devenue un objet de spéculation financière avec des taux de profit à deux chiffres. L'arrivée des fonds de pension sur la rue de la République, accueillie à bras ouverts par la municipalité, marque ce moment de basculement.
Et on peut se demander, avec la multiplication des projets en cours, quelle est pour nos élus la place des habitants dans la ville. Plus que jamais, nous devons exiger un débat démocratique sur le devenir du centre-ville au sens large et sur la prévention des effets d'exclusion.
Bien. Avant d'approfondir le sujet dans la deuxième partie avec Christian, notre invité de l'association Un Centre-Ville pour Tous, on va s'écouter une petite chanson des Massilia qu'on dédie à Jean Roucas, le sinistre comique marseillais. Allez, c'est parti.
Ah, tu le sais, cousin, à Marseille comme partout en France, dans tous les villages, dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Bouh les gars ! La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Mais ma ville tremble, ma ville est malade, devant le Maine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouve rassemblé presque tout le genre humain. La cité a été bâtie grâce à ces millions de mains. Tout le monde vit sa vie et beaucoup s'y trouvent bien. La culture de ce pays qu'on appelle Occitanie a toujours su intégrer les gens de tous les pays. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis, mais je reprends mon argument, je développe, je poursuis. Car ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Les gens venus de partout qu'on appelle l'immigrant, nous en avons pour voisins, certains sont nos grands-parents. Ils font leur bout de chemin et un jour ont des enfants, d'adorables chérubins avec de jolies mamans. Mais vous savez les enfants, ça va toujours grandissant. Et voilà qu'un bon matin, le bambin fête ses 3 ans. Il va nous parler enfin, toute la famille attend. Il ménage son effet, en fait il prend tout son temps. Il ouvre la bouche et dit maman j'ai faim avec l'accent. Et pourtant, ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Tous les samedis, au stade Vélodrome, tous les supporters s'écrient comme un seul homme. Allez l'OM, on est tous avec toi, allez l'OM. Les Marseillais seront toujours là. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle soit soudée. Et ça, je crois bien que personne ne peut le contester. Le jour vert, c'est bien mieux que de s'enfermer si c'est pas clair. Dès qu'on ne peut s'y retrouver, monsieur le maire, c'est à vous que je viens parler, c'est d'un repère dont ont besoin les Marseillais, respirer l'air. Je crois bien qu'il est pollué d'eau à la mer. Nous ne pouvons plus reculer, alors ouvrons un grand débat. Parlons d'identité, montrons à tous ces pépons que nous savons ce que c'est. La Provence a des valeurs, j'ai dit l'hospitalité. Oublions le doute et la peur, c'est de l'avant qu'il faut aller. Et pourtant, ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, nous avons tous grandi autour du même lacidon. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, nous allons tous au stade chanter les mêmes chansons. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, Marseille a des problèmes, ensemble on a les solutions. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, si l'on aime notre ville ensemble, disons non au front. Si l'on aime notre ville ensemble, disons non au front. Si l'on aime notre ville ensemble, disons non au front. Si l'on aime notre ville ensemble, disons non. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade. Jusqu'aux Écalades.
Alors, nous sommes de retour dans les studios de Radio Galère avec Hervé, avec notre invité que nous recevons, Christian Deleuze, membre de l'association Un Centre-Ville pour tous et qui résiste au phénomène de gentrification sur Marseille. Alors, Christian, pouvez-vous nous présenter un peu plus votre association ?
Alors, Un Centre-Ville pour tous est une association qui existe depuis 2000. On s'est regroupé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un certain nombre de cas absolument insupportables de vieilles personnes habitant des hôtels meublés du quartier Belzunce qui étaient expulsées avec des méthodes expéditives. Juste avant, il y avait eu déjà le fonctionnement de la société d'économie mixte Marseille Habitat sur le quartier du Panier où d'autres personnes de notre même équipe avaient fait un audit, avaient fait des analyses et avaient découvert qu'il s'était passé des choses absolument anormales dans le fonctionnement de Marseille Habitat sur ce quartier. Donc on a rassemblé nos forces et à partir de là on s'est dit il faut avancer et il faut surtout montrer que, à toutes ces personnes qui se font maltraiter qu'elles peuvent réagir. Et que nous-mêmes, parce que nous sommes des citoyens normaux, nous constatons comment et pour enfin que la ville et l'État, dans certains cas ou d'autres partenaires, ont des attitudes méprisantes à l'égard des habitants.
D'accord. Alors ça, c'était il y a pratiquement plus de 10 ans. Maintenant, c'était en 2001 que ça a commencé.
Voilà. Alors depuis, nous n'avons pas cessé de nous insurger, d'abord en tant que citoyens, mais surtout d'accompagner la façon dont les habitants eux-mêmes s'insurgeaient. Alors, parmi les habitants, il y a ceux qui sont très pauvres, qui ont très peu de moyens, qui sont d'origine étrangère et qui ne parlent pas le français. Et ces gens-là sont particulièrement vulnérables. Donc, nous ne pouvions pas accepter cela, que ce soit les plus vulnérables qui soient les plus attaqués, entre guillemets, qui soient les plus mis à l'écart, et qui soient les plus méprisés. Et donc, nous avons, en quelque sorte, essayé de mieux comprendre ces mécanismes-là. Est-ce que c'est des mécanismes financiers? Est-ce que c'est des attitudes politiques? Est-ce que c'est des institutions qui ont été mises en place pour accélérer le phénomène? Donc, il fallait bien comprendre. Et deuxièmement, pour offrir entrer en contact, offrir des mettre en place des lieux d'information, des lieux de discussion. Par exemple, on a la chance que l'un d'entre nous parle bien l'arabe et que, évidemment, il a été le meilleur médiateur pour essayer avec les vieux, ce qu'on appelait les chibani, enfin ce que certains appellent des chimani, les vieux du troisième âge, et de faire comprendre que c'est pas parce que ils sont du troisième âge, mais le fait qu'ils soient d'origine algérienne n'a rien à faire. C'est que ce sont des personnes âgées qu'il faut respecter. Et pareil pour les habitants pauvres du Panier ou plus tard les habitants pauvres de Noailles.
Donc encore une fois, on se rend compte que c'est les populations les plus vulnérables qui sont encore touchées par ce genre de phénomène éminemment politique. À qui êtes-vous confronté lorsque vous luttez comme ça contre la gentrification ?
Nous sommes confrontés à des d'abord, il y a des lois. Des lois qui autorisent dans certaines limites des choses, mais malheureusement nous avons affaire ici à Marseille, nous avions affaire au début des années 2000 à des autorités publiques, surtout des autorités municipales, qui négligeaient la loi ou la méprisaient simplement parce que, enfin peut-être simplement, soyons gentils avec eux d'une certaine façon, parce qu'ils n'avaient pas l'expérience. Autant à Paris, à Lyon, ils avaient fait l'expérience beaucoup plus tôt. Donc je ne serais pas si gentil que ça, parce que je dirais qu'ils ont été incapables de s'approprier la loi, de s'approprier les expériences de ce qui se passait ailleurs, et ils ont été incapables d'avoir une certaine humanité à l'égard de citoyens qui, c'est pas parce qu'ils ne votent pas pour certains d'entre eux, n'empêche qu'ils ont longtemps cru que c'était des citoyens qui ne votaient pas, et après ça s'est retourné contre eux parce qu'ils ont découvert qu'il y en avait beaucoup d'entre eux qui votaient.
D'accord. Alors, nous sommes toujours avec Christian Deleuze, hein, membre de l'association Un Centre-Ville pour tous. Ce que vous êtes en train de dire, finalement, c'est qu'on peut rattacher le problème de la gentrification avec le problème plus global du manque de démocratie qu'on est en train de vivre en ce moment. Les populations ne sont pas consultées quand il s'agit de réhabiliter un centre, le centre-ville, comme par exemple le quartier de Noailles ou le quartier du Panier.
Oui. C'est la consultation, d'abord les élus, je pense à la municipalité Gaudin quand elle est arrivée en 95, ils disaient de toute façon on vient de consulter les habitants, puisqu'on est élus, ils ont largement voté pour nous, donc on sait très bien ce que les habitants veulent. Donc ils n'avaient pas besoin de rencontrer les habitants concernés par leur réhabilitation forcée, puisqu'ils estimaient qu'ils avaient le soutien de la population. Donc on a les uns et les autres ont des conceptions de la démocratie qui sont extrêmement variables. Et voilà, on s'est permis, parce que c'est des gens avec lesquels le dialogue était plus difficile, on voulait bien, je pense à ce qui s'est passé à cette époque sur Belzunce, rencontrer l'Amicale des Algériens, parce que c'était la seule association apparemment qui permettait de réglementer non pas les locataires, mais les commerces. Donc les locataires, c'était le dernier de leurs soucis.
Est-ce que vous êtes les seuls acteurs à résister de cette manière-là face au pouvoir public quand il s'agit de gentrification ?
Alors, on n'est pas les seuls acteurs, puisqu'il y a eu, par exemple, une action forte, mais sur d'autres quartiers. Je pense au quartier du Rouet. Mais c'est vrai que, en ce qui concerne le centre-ville, nous avons été les seuls vraiment pointus sur ce sujet. C'est-à-dire faisant l'effort systématiquement d'avoir une bonne connaissance juridique, de pouvoir faire des analyses sur les aspects économiques, etc. C'est vrai que nous avions la chance de regrouper dans notre association des gens qui sont des anciens fonctionnaires de la ville, de la région, de l'État, et qui connaissaient tout cela à titre professionnel, et soit qu'ils étaient encore actifs, soit qu'ils ne l'étaient plus, ont été ulcérés par la façon dont les lois étaient utilisées contre les habitants.
Et ça a fonctionné, puisque je crois savoir, on en a parlé en préparant l'émission, que vous avez obtenu des résultats, et notamment une condamnation de la mairie de Marseille par la Chambre régionale des comptes, je crois, qui a rendu un rapport récemment.
Alors, on a obtenu toute une série de condamnations, par exemple que sur des hôtels meublés de Belzins, sur la rue de la République, pour la protection de tel ou tel locataire contre Marseille République, etc. Récemment, effectivement, dans les jours qui viennent, on va en entendre parler, la Chambre régionale des comptes vient de remettre un rapport très sévère sur la politique qu'a menée Marseille Aménagement, mais sur des tas d'autres aspects de la ville de Marseille, puisque ce rapport de la Chambre régionale parle aussi du palais de la Glisse, parle du stade de l'OM, etc., etc. Mais sur cette thématique-là, qui nous concerne particulièrement, nous ne pouvons pas dire que c'est nous qui avons incité la Chambre régionale à mener cet audit. La situation était suffisamment dramatique pour que la Chambre régionale dise « il faut que j'analyse ça ». Mais c'est vrai que, en quelque sorte, toute une série de documents que nous avons préparés ont dû aider la Chambre régionale des comptes à aller plus loin dans l'analyse.
Très bien. Donc je rappelle que nous sommes toujours avec Christian Deleuze, qui représente l'association Un Centre-Ville pour tous. Alors dites-moi, Christian, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Comment organiser la résistance avec les citoyens à ce genre de phénomène ?
D'abord, notre association, c'est sûr, mais je crois que il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est que la conscience civique c'est quand même très largement développé en l'espace de 10-15 ans, grâce au fait qu'il y a eu justement de l'information qui a été faite par toute une série d'acteurs, pas seulement par nous, et donc on le voit bien, les gens se mobilisent davantage et n'acceptent plus de se laisser marcher sur les pieds. C'est peut-être une force que nous avons à Marseille, c'est que nous avons des quartiers anciens avec des habitants anciens qui ont su petit à petit se prendre en main eux aussi, et du coup on a un quartier de ce centre-ville qui, que ce soit avec l'histoire de Marseille-Provence 2013 ou que ce soit dans les années qui vont venir, vont être en mesure de dire, de préserver en quelque sorte ces quartiers du centre-ville avec leur pauvreté et leur richesse, mais chacun a le droit de participer à l'avenir de notre ville.
Ah, c'est ce qui m'amène à la question suivante, c'est-à-dire du coup c'est une manière de se poser la question de comment essayer de penser l'aménagement et la transformation de la ville au service de l'intérêt général, c'est-à-dire avec tout le monde.
Voilà, exactement. Alors c'est toute la difficulté de créer, de faire la participation avec les habitants, de la construire, mais toute une série d'associations qui peu à peu se construisent. Moi, je pense que les CIQ, par exemple, ont une attitude un peu différente. Dans certains cas, ont des attitudes un peu différentes. Beaucoup d'autres associations sont là. Et ces associations sont des partenaires pour aider à cette participation. En quelque sorte, pour être faire de la médiation pour favoriser cette participation des acteurs culturels et des tas d'autres.
Tout à fait. Alors, les élections municipales auront lieu dans 6 mois. Est-ce que, au niveau de votre association Un Centre-Ville pour tous, vous aurez une action particulière en direction des candidats ?
Alors, ce que nous allons faire, nous l'avons déjà fait lors des élections précédentes où nous avions été très déçus parce que nous leur avions posé toute une série de questions. La plupart d'entre eux nous avaient fait des réponses rapides, pas du tout approfondies, etc. Donc maintenant qu'ils se rendent bien compte que ces sujets-là sont des sujets épineux et peuvent faire des renversements de majorité, par exemple, ils seront sans doute plus attentifs à nos questionnements, et nous ferons connaître les réponses de ces candidats au moment des élections.
Et enfin, pour terminer, si nos auditeurs ici à Radio Galère souhaitent vous contacter, comment peuvent-ils le faire ?
Alors, nous avons un site internet qui s'est beaucoup, beaucoup enrichi en l'espace de 15 ans, qui s'appelle www.uncentrevillepourtous.fr. Un centre-ville pour tous est tout attaché et c'est assez facile d'y accéder par internet.
On a encore du temps, donc qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous auriez à dire aux auditeurs de Radio Galère ?
Eh bien, je crois que nous avons tous à être beaucoup plus attentifs à ce qui se passe dans notre ville. On se rend compte, au fur et à mesure de nos analyses, j'ai parlé d'aspects juridiques, d'aspects économiques et tout ça, mais c'est une partie qui est utile à approfondir lorsqu'on veut militer et réagir de façon adéquate par rapport à ce que font les diverses institutions. Mais en réalité, toutes ces questions d'urbanisme, nous en sommes tous partie prenante complètement par le loyer que nous payons, par le cadre de vie plus ou moins adéquat dans lequel nous sommes, des poubelles qui ne sont pas ramassées, des stationnements insupportables qui empêchent les piétons de rouler, de se déplacer, etc. Donc, en fait, petit à petit, chacun d'entre nous se rend bien compte qu'il a quelque chose à dire sur chacun des sujets qui le concernent.
Vous êtes optimiste pour l'avenir de Marseille ?
Je crois, parce que petit à petit, ces prises de conscience, on serve à quelque chose. Et puis, les élus ne peuvent plus se défiler comme ils se défilent, comme ils se défilaient. Ils sont obligés de répondre, beaucoup plus que par le passé. Ils sont acculés par la législation et par le fait qu'il y a des gens, pas seulement des militants ou des habitants, mais aussi des institutions qui les contraignent à appliquer les mesures. Exemple, maintenant, le PLU, donc le plan local d'urbanisme de Marseille-Provence-Métropole, parce que malheureusement, la communauté urbaine, enfin malheureusement pour elle, la communauté urbaine a été obligée de prendre pour argent comptant le PLU que lui a présenté la ville de Marseille. Et donc ça constitue l'essentiel du PLU de la communauté urbaine. Eh bien, même la communauté urbaine aujourd'hui en prend dans la figure parce qu'elle a accepté quelque chose qui n'est pas acceptable en ce qui concerne le nombre de logements à réaliser qui est proposé, qui est beaucoup trop insuffisant, et en particulier de logements sociaux et dans l'ensemble du territoire de la ville. Et là, il y a des réprimandes qui viennent d'être adressées par le préfet de région à la communauté urbaine, et nous-mêmes, nous allons agir pour pousser la communauté urbaine à réformer le PLU qui vient pourtant juste d'être voté.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Christian Deleuze, d'être venu nous avoir fait, en tout cas, le plaisir de venir répondre à nos questions ici à Radio Galère. Nous allons maintenant écouter un petit morceau de musique, Capitale de la rupture, par Kenny Arcana.
MARSEI2LE est à la U. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nos rues indomptées, génération du crabu. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refait à notre insu. Petit délimange, longue peine, aux gommettes ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fera tuer. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu où est passée la ville du bled. Paris ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Trop peu sont opposés aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de roi. MARSEI2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien une. Choc des cultures, 2013, prix de vitesse, flics et caméras à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, comme ce qui reste, esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système, qu'on souhaite en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir. Nos rues se remplissent de tristes. l'apartheid se dessine. Nos zones n'étaient pas que livrées. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car la limite cesse, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la celle ici c'est dans le shit. Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vide. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavane les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture.
Alors nous arrivons maintenant à la dernière partie de l'émission avec l'agenda d'Attaque Marseille en octobre-novembre. Alors qu'est-ce que nous a concocté Attaque ce mois-ci, Hervé ?
Alors il y a tout d'abord la projection d'un film, le film qui s'appelle L'An 01, très ancien film, film culte, le mardi 22 octobre à 18h30, donc au 29 boulevard Longchamp dans le 1er arrondissement. L'An 01 raconte comment un beau matin et non pas un grand soir, l'humanité est prise du sentiment profond de l'absurdité de sa condition dans une société de consommation qui était pourtant encore au mieux de sa forme à l'époque. C'est un film qui est à voir. En plus, c'est gratuit dans la limite des places disponibles naturellement.
Ouais, gratuit, c'est toujours appréciable. Y a-t-il autre chose de prévu ce mois-ci ?
Eh bien oui, c'est déjà la deuxième alter randonnée d'Attaque Marseille. Donc c'est des randonnées qui se veulent une autre façon de se rencontrer dans un cadre politique et militant. Donc elle a lieu le dimanche 27 octobre. Ce sera une randonnée urbaine d'une durée d'environ 3 heures, qui fait 4 km et qui va nous mener donc du chemin du littoral, donc devant le silo, on partira devant le silo de la Madrague au belvédère de la Viste. Donc on va monter vers les quartiers nord et on pourra à la fin de la randonnée pique-niquer dans le parc Brégante avec beaucoup de découvertes, notamment en matière botanique et puis de curiosités. Donc rendez-vous à 9h30 devant le silo de la Madrague, donc c'est deux chemins du littoral. Le bus 35 ou 36 à l'arrêt Littoral Mourin. Et bien sûr, c'est gratuit et ouvert à tous.
Eh bien là, je crois qu'on a fait le tour.
Eh bien non. Dans le cadre de nos réunions publiques mensuelles, donc le mardi 12 novembre, Attaque Marseille donc, organise toujours dans son local du 29 boulevard Longchamp, de 18h30 à 20h30, une réunion débat sur le thème des ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés. Donc un PPP, c'est une procédure qui permet à une collectivité de déléguer à un groupe privé la construction et la gestion d'équipements publics sur une durée pendant laquelle la collectivité versera un loyer avant de récupérer le site en fin de contrat. Pour résumer, on pourrait dire que cette forme juridique est un nouvel outil pour vendre, en quelque sorte, le bien public aux intérêts privés. C'est le cas, par exemple, pour le stade Vélodrome, pour la Rocade L2, et donc cette réunion publique est également libre dans la limite des places disponibles.
Alors nous allons maintenant aborder la dernière partie de l'émission avec notre devinette de la gueule ouverte. Alors t'es prêt, Hervé ? Qui a dit « Je vis modestement, on ne peut pas manger 7 poulets par jour ».
Je ne sais pas moi, ça pourrait être Renaud Muselier, qui est propriétaire de la clinique Saint-Martin et qui a acheté des terrains de l'hôpital public Sainte-Marguerite pour le prix dérisoire de 320 euros du mètre carré, la transaction ayant été validée par Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, mais aussi président du conseil d'administration des hôpitaux de Marseille.
Eh bien non, ce pourrait être effectivement ce vieux nono, mais ce n'est pas lui. Alors je vais te le dire, il s'agit de Marcel Dassault dans le Nouvel Observateur du 12 février 1973. Son fils Serge Dassault, cinquième fortune de France, est à la fois marchand d'armes et patron de presse. Il est actuellement soupçonné d'avoir acheté des électeurs pour permettre la réélection de son successeur. Eh bien très bien. Il ne nous reste plus qu'à nous dire, à vous dire au revoir. Cette émission sera rediffusée le lundi 21 octobre à 13h et notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 14 novembre à 15h. Je remercie à nouveau Christian Deleuze, qui, je le rappelle, est membre de l'association Un Centre-Ville pour tous, d'être venu nous voir dans l'émission. Je te salue aussi, Hervé.
Eh ben, au mois prochain.
Au mois prochain.
«
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.